Bien, voilà notre session du matin. Tout le matin, on va toucher ce thème. C'est quoi vraiment un homme? C'est quoi vraiment une femme? Et alors, on vit dans une société où il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de recherches, de questionnements par rapport à la place de l'homme, la place de la femme. On parle beaucoup d'égalité. Et il y a aussi, je pense, beaucoup de confusion. Alors, voici un exemple de confusion. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la femme veut l'égalité, puis en même temps, elle veut ressembler à l'homme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur maintenant décédé, Guy Corneau. Ça vous dit quelque chose, Guy Corneau? Guy Corneau, c'est un psychanalyste qui a écrit, par exemple, « Père manquant, fils manqué », un titre bien connu pour plusieurs. Et puis, il est décédé il y a quelques années de cela. Et puis, il y a une citation que j'aimerais qu'on regarde ensemble, qui, je trouve, qui est très parlante, concernant la vie du couple dans notre société. Alors, première partie de la citation, « À vrai dire, toutes les guerres du monde, quelles qu'elles soient, quel que soit le prétexte invoqué, sont des guerres de territoire. La guerre éclate lorsque deux pays prétendent à la souveraineté sur une même portion de territoire, dont les frontières ont été mal définies, ou ont fini par se confondre avec le temps. Là où des limites claires ont été établies et respectées, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de conflit. De même, lorsqu'une société est en plein bouleversement en ce qui concerne la définition des rôles, et des limites de chaque individu, un climat d'incertitude s'installe et favorise la propagation d'un conflit, particulièrement sur les terrains de la famille et du couple. » Et je pense que c'est une réflexion très pertinente par rapport à notre société actuelle. Il y a guerre. Et qui dit confusion des rôles dit guerre. Et on voit les tempêtes. Vous avez certainement des amis, peut-être même des parents ou des amis de vos parents ou des personnes autour de vous, des couples qui sont en guerre ou qui ont été en guerre, qui se divorcent, qui vont en union libre, des familles qui se reconstituent, etc. Peut-être vous êtes de ces familles-là, vous aussi. Confusion des rôles crée des conflits. Et donc, il y a besoin, quand on veut parler aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme, qu'est-ce que c'est vraiment un homme, qu'est-ce que c'est vraiment une femme, quels sont nos rôles respectifs, besoin de redécouvrir des éléments importants de base pour nous aider à mieux vivre en harmonie, hommes et femmes, ensemble. Cette semaine, il y a à peine quelques jours, je lisais. Juste avant d'arriver à ça, juste dire une chose par rapport à ce problème de vivre avec quelqu'un d'autre. Une des solutions qu'on a trouvées, au Québec en particulier, c'est de vivre tout seul. Les statistiques sont incroyables par rapport aux gens qui vivent seuls. On dit que les Québécois sont les champions canadiens de personnes qui vivent tout seuls. On dit qu'il y a presque un ménage sur trois composé d'une seule personne. C'est quand même incroyable. Alors, un article que je lis ici qui a paru, je ne me souviens plus dans quelle revue, ça dit « Pas de coloc qui vide le carton de lait sans le remplacer. Pas de conjoint pour faire la morale quand on rentre passer les 12 coups de minuit. Pas d'adolescent pour transformer la salle de bain en zone sinistrée. Le bonheur. » Et on verra ce soir, qu'est-ce que le bonheur ce soir? En passant, on a chanté tantôt, je pensais à ça, « Christ seul me suffit ». Est-ce qu'on croit vraiment ça? Hein, quand on chante des choses... Hein? Alors, le bonheur. Alors, partout en Occident, de plus en plus de gens optent pour la vie en solo, et surtout dans les grandes villes. Et Montréal se classe parmi les capitales canadiennes du genre, avec 40% des ménages qui ne comptent qu'une seule personne. C'est incroyable. peut-être le boom immobilier, tout ça, ça c'est en partie causé par ça, certainement, des gens qui vivent seuls. À Québec, 37 % Trois-Rivières, 35 % Rimouski, 35 % Alors, est-ce que c'est ça la solution pour régler nos conflits? Donc, c'est juste hier, je lisais cet article. Hello, ça ne marche plus. Hein? Il y a une diapo que j'ai... Ah, j'ai dû la mettre après. C'est pas grave. Je lisais un article hier de Yvon Dallaire. Je ne sais pas si c'est quelque chose, Yvon Dallaire, c'est un psychologue. Si vous lisez, soit le Journal de Montréal ou parfois d'autres revues, il a écrit des livres comme « Homme est fier de l'être »,« Qui sont ces couples heureux », etc. C'est un psychologue qui est assez à contre-courant. Puis là, récemment, il envoie une lettre de réflexion, une série de lettres. Et puis, il dit dans sa lettre, j'aurais voulu la voir sur diapo, mais j'ai dû faire une erreur ici, il dit que « Si la tendance se maintient, seuls 3 couples sur 10 couples mariés depuis 1990 le resteront à vie. 3 sur 10. Et puis, il donne les facteurs qui sont à l'origine de l'augmentation des taux de divorce. Alors, il dit les facteurs sont multiples, mais un des facteurs qu'il mentionne, c'est la méconnaissance ou le refus des différences hommes-femmes. Alors, on est en plein dans le sujet. Parler de la différence homme-femme. Un autre facteur, étonnamment, il dit la baisse de la pratique religieuse. Un autre facteur, des lois plus permissives sur le divorce. On facilite le divorce au lieu de le rendre plus compliqué. Et il ajoute aussi la culture du moi. Me, myself and I. Je, me, moi. Et finalement, il mentionne aussi la culture de la société de consommation et du jeter après usage. On est témoin de ça, notre propre famille, Christiane et moi, avec nos filles qui sont monoparentales maintenant. Et puis, à un moment donné, le partenaire d'une de nos filles, après quelques années de vie commune, sans s'être mariée, voit son psychologue, conclut, « Je ne t'aime plus, donc je te laisse. » C'est quoi? C'est quoi l'amour? Aujourd'hui, c'est « on jette après usage ». Alors, la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux se marier ou rester célibataire? Alors, quand on a posé la question à un petit garçon qui s'appelait Théodore, 8 ans, il dit, je ne sais pas ce qui est mieux, mais je ne ferai jamais l'amour avec ma femme, je ne veux pas qu'elle devienne grosse. Une petite fille, elle dit ceci, elle dit, Anita, 9 ans, elle dit, c'est mieux d'être célibataire pour les filles, mais les garçons ont besoin de quelqu'un pour nettoyer. Alors, qu'on parle de célibat, de mariage, c'est quoi le bonheur? On va en parler ce soir. Mais pour ce matin, on va se poser quelques questions. Alors, une première question, est-ce qu'on est égaux? On va discuter de ça. On va regarder au niveau biblique. Est-ce qu'on est identique? C'est quoi être un homme? Et c'est quoi être une femme? Voilà certaines des questions qu'on va élaborer ensemble. Et on va commencer, bien sûr, avec la Genèse. Voilà. Genèse 1, versets 26 à 28, c'est le texte de base. Et moi, je trouve formidable ces deux chapitres, Genèse 1 et Genèse 2, parce qu'ils posent vraiment des fondements par rapport à la relation homme-femme. Versets 26 à 28, on l'a ici sur la diapositive, ça dit, « Dieu dit, faisons, donc on voit toute la Trinité ici, hein, ils sont trois en train de discuter ensemble, faisons l'homme, l'être humain. » L'homme ici, ce n'est pas le mâle, mais faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Alors déjà, là, on voit trois aspects où on affirme l'égalité entre l'homme et la femme. Trois choses très claires. La première chose qu'on voit, c'est qu'ils sont créés à l'image de Dieu. J'ai dit que j'aurais changé ma pile, il me semble que ça va mal. Ils sont créés les deux à l'image de Dieu. L'homme et la femme également. Vous reflétez l'image de Dieu. Et la deuxième chose qu'on voit ici dans le texte, c'est qu'ils reçoivent le même mandat. Je vais me fâcher, je vais changer la pile ici. Hein? Non, mais j'ai une autre pile ici. Je vais voir si ça va régler mon petit problème. Technologie. Si je mettais la pile dans le bon sens, ça aiderait mieux, peut-être. C'est comme ça. Voilà. Ça marche-tu, là? Ils ont reçu le même mandat de dominer sur la création, de se multiplier. Et les deux sont sous la même autorité. C'est Dieu qui les envoie. C'est Dieu qui leur donne ce mandat. Alors là, on a une affirmation nette et claire que l'homme et la femme sont égaux en valeur. La femme n'est pas inférieure à l'homme. On ne devrait avoir aucun doute là-dessus. Et puis, ça devrait aussi nous amener à réfléchir sur la personne de Dieu. Dieu n'est pas un mâle. Dieu n'a pas de barbe. On peut dire, mais oui, mais la Bible dit qu'on l'appelle Père. Mais s'il a créé la femme à son image, autant que l'homme, et si on sait que Dieu est esprit, la Bible nous le dit, Jésus le dit, ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit en vérité, car Dieu est esprit. Dieu est à la fois masculin et féminin. Il est 100% masculin, 100% féminin. Et si à cause du titre de père, on lui attribue plus une caractéristique masculine que féminine, c'est parce que c'est une fonction. Le mot « père » représente non pas la nature de Dieu, mais sa fonction de celui qui règne, celui qui gouverne. Et on a besoin d'un père. On a besoin de savoir que Dieu règne dans l'univers, ça nous sécurise, ça nous fait du bien de savoir que Dieu, je peux l'appeler « papa ». Mais dans les faits, vu qu'il est esprit, créé l'homme et la femme à son image, sa ressemblance, Dieu, c'est un père, on pourrait dire, mais au cœur de mère. Juste le mot « compassion » que vous avez lu dans Romains 12 ce matin, le mot « compassion » dans l'original, dans l'hébreu, c'est relié au terme d'un fœtus qui est chéri par le sein de sa mère. Dieu a un cœur de mère. Vous voyez dans Ésaïe 66 aussi que Dieu se compare à une mère qui console son fils, qui allaite son enfant. Donc, les femmes, vous êtes à l'image de Dieu autant que les hommes. Dieu est à la fois masculin et féminin. Et peut-être que déjà là, on a des faux concepts peut-être qui sont en train de craquer là, dans vos esprits par rapport à ça, parce que de penser que Dieu est plus masculin que féminin, ça peut donner aux femmes un sentiment d'être un peu deuxième classe. C'est pas juste. Genèse 1 affirme que la femme est autant l'image de Dieu que l'homme. Donc, cette égalité dans la valeur entre l'homme et la femme est un fait biblique, pour moi, indiscutable. Les deux sont à son image, à l'image de Dieu. Les deux reçoivent le même mandat et les deux sont sous la même autorité. Jésus est Seigneur autant pour l'homme que pour la femme. Quoique, on verra plus tard, que Jésus dit qu'il est le chef de l'homme. Mais on verra ça tantôt. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Comme Jésus est venu comme un mâle, un homme, hein? Vous dites, mais c'est la preuve que Dieu est masculin. Non. Je pense qu'il y avait un mandat, une autorité et aussi un effort physique particulier qui a été inclus là-dedans. Et il fallait qu'il vienne dans un corps d'homme à cause de cette autorité qu'il représentait. Alors, le mot « autorité », on va aussi regarder ça. Parce que c'est un mot qui peut être délicat aussi. Question. Jusqu'à maintenant. Ça va? Oui. C'est-à-dire, au ciel, on ne va pas se marier. Au ciel, il n'y aura pas de sexe. Oh, non! On en parlera aussi de ça demain. Mais quand ça dit Dieu a créé l'homme et la femme à son image, sa ressemblance, donc on parle de caractéristiques, d'attributs masculins et féminins. On ne parle pas de corps physique. Et je pense que cette notion dans le ciel après, lorsqu'on va être rendu au ciel, il y aura il y a une dimension physique qui ne sera plus là. Est-ce que je vais rester fondamentalement masculin dans ma nature? Je n'ai pas réfléchi à ça encore. Je suis en train de réfléchir tout cru là, ici, là, à froid. Est-ce que ma femme va rester féminine dans sa nature? Moi, je me dis que probablement que oui. Et Dieu, pour moi, a ses attributs masculins et féminins. On va les définir tantôt, c'est quoi? Ça représente la personne de Dieu aussi. Alors, ces choses-là demeurent. Alors, ta question, c'était par rapport au fait que ça a été créé, mais que ce n'était pas là avant, c'était ça que tu voulais dire? Alors, je crois que Dieu est masculin et féminin et que quand je suis en relation avec les êtres humains, je découvre des attributs de Dieu au travers de ces relations-là. Dieu peut me montrer sa douceur au travers de mon épouse, par exemple. Dieu peut me montrer sa compassion au travers d'une personne qui va avoir vraiment un cœur pour les gens. Et je découvre la personne de Dieu au travers des autres. C'est pour ça que dans notre évangélisation, où les gens vont croire au travers de notre amour, notre unité, ça reflète Dieu. Alors, je pense que de toute éternité, Dieu est masculin et féminin. Ça fait partie de sa nature, de ses attributs. Ruben. Un mal nécessaire, comme.
Ouais.
Non, on verra demain, on va parler de sexualité, que c'est vraiment l'intention, le plan de Dieu, et que c'était dessiné par Dieu, voulu par Dieu, beau et représentatif de la plénitude de l'amour que Dieu veut qu'on expérimente aussi avec lui. Donc, le fait d'avoir créé l'être humain masculin et féminin, c'est l'expression de Dieu. On est l'image de Dieu. Et cette image-là n'a pas commencé à la Genèse, dans le sens que Dieu est de toute éternité et cette image-là et qu'il l'a incarnée sur la planète Terre au travers d'un homme et d'une femme en disant, mais voici mon image. Créant l'homme et en créant la femme, voici aussi mon image. Continuons de réfléchir. Hein? On m'a posé... Oui. Jésus, il est venu en tant qu'homme. Mais on peut imaginer que malgré le fait qu'il avait un corps d'homme, étant donné qu'il est Dieu, qu'il était aussi masculin et féminin dans sa nature. Et dans l'éternité, même s'il a toujours ce corps spirituel, bien, il y a toujours un... parce qu'on a pu mettre nos doigts dans ses plaies, etc. Il y a ce corps-là, spirituel et masculin, mais sa nature n'a pas changé. Il est Dieu. Oui. Tout à fait, puis on va voir ça tout à l'heure. Oui. Oui. Tout à fait. Tout à fait. On va toucher ça. Oui. Oui, alors on va regarder c'est quoi les caractéristiques masculines et féminines dans un moment et de constater que le fait d'être d'être un homme, je peux dire mâle, hein, ça fait un peu animal, mais en tout cas, d'être un homme, ça ne veut pas dire qu'on n'a que des caractéristiques masculines. Une fois, j'ai dit à ma femme, par exemple, tu sais, chérie, moi aussi, je suis sensible. Elle s'est mise à rire quand j'ai dit ça. Mais de dire que j'ai, en tant qu'homme, j'ai des attributs qui sont aussi féminins, mais la répartition, généralement, est plus de masculin que de féminin, mais il y a des exceptions. Vous avez des hommes qui vont être plus féminins que masculins, ça ne fait pas d'eux des homosexuels, mais ça fait d'eux des personnes plus sensibles, et ça ne fait pas des gens qui sont pas normaux, non. Mais il y a une généralité, que chez les hommes, il y a plus d'attributs masculins, chez les femmes, plus d'attributs féminins. Mais une femme qui a des attributs plus masculins que féminins, ça ne fait pas d'elle une femme qui est moindre. Donc, il y a une question d'équilibre là-dedans. Une dernière question, puis je continue. Et tu me devances, c'est mon prochain point. Oui, mais on va arriver à Genèse 2. On va arriver à Genèse 2 où il crée Adam en premier. On arrive à ça dans un petit moment. Alors, je fais une petite parenthèse sur un sujet qu'on m'a mentionné pour me préparer pour cette fin de semaine. Un sujet qui, pour nous, les Québécois, est complètement étranger. C'est le sujet de la dot. OK? Parce que il y a plusieurs d'entre vous qui viennent de milieux où il est question de la dot. Et pourquoi j'en parle maintenant? Parce que je me dis, je vais placer ça où dans ma fin de semaine? C'est parce que là, on est en train de parler d'égalité. Et puis, est-ce que ces pays où, quand un homme marie une femme, il doit payer une dot à la famille de la femme, est-ce que ça transmet une notion d'inégalité? Parce que ça peut transmettre la pensée que je paye, j'achète ma femme. Tu sais, et la femme devient comme un objet qu'on s'achète. Et ça donne à la femme une valeur moindre parce que c'est une sorte de commerce. Et puis après ça, ben, le mari pourrait dire à la femme, ben moi, j'ai payé cher pour t'avoir, là, puis là, je te contrôle, je te domine. Et puis le phénomène, c'est que certaines femmes d'origine africaine ou autre, là, peuvent dire, ben moi, je ne vais pas vivre ça, je ne vais pas avoir à rendre compte à ma famille en Afrique, donc je vais marier un Québécois, puis on va... ou je ne vais pas me marier, puis je vais vivre en union libre, comme ça, on ne se trouble pas avec la notion de la dot. Alors, ma femme a deux frères qui ont été missionnaires longtemps en Afrique, Côte d'Ivoire en particulier, fait que là, j'ai envoyé des WhatsApp, si vous connaissez WhatsApp, ou des courriels pour avoir... C'est quoi, là, la question de la dot? Alors, ce n'était pas même pour eux qui ont été longtemps en Afrique, ce n'était pas si clair que ça, leur réponse. Un m'a dit, en Côte d'Ivoire, la notion de la dot n'existe plus depuis 1960. Est-ce qu'il y a des gens de Côte d'Ivoire ici? Est-ce que c'est vrai?
Ça dépend
des familles, hein? Peu importe si officiel ou pas, les familles peuvent ou non l'appliquer. On a parlé avec Christelle ce matin, c'est ça, Christelle? T'es là? Oui, puis au Cameroun, alors sa famille, à Christelle, non, le papa lui a décidé, on ne va pas sous la dot. Alors, j'ai réfléchi à ça. Alors, chaque culture a besoin d'être visitée à la lumière de la pensée de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu. Et puis, il y a des belles choses dans les cultures, puis des fois, il y a des choses qui sont moins bonnes. Il faut pouvoir regarder qu'est-ce qui est bon là-dedans, quel est le sens derrière certaines coutumes. Comme la dot, pour certains, ça va être comme... Hey, on vient de perdre notre fille, là, puis ça, c'était la main-d'œuvre, là. Alors, on a besoin d'une compensation pour la main-d'œuvre qu'on vient de perdre. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, on annonce qu'il y a vraiment eu un mariage en donnant des cadeaux à tout le monde dans la famille, la grand-mère, le grand-père, l'oncle, la tante, tout ça. C'est tissé serré en Afrique. C'est pas comme nous au Québec. C'est pas la même chose. Mais lorsque... Il y a une habitude, une tradition qui amène les gens soit dans l'endettement ou le refus de se marier, on vient en concubinage, ou des situations comme ça qui vont nuire à la naissance d'un nouveau couple. Alors là, il faut pouvoir examiner et dire, mais est-ce qu'on veut vivre sous cette obligation-là ou pas? Mais la Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Et puis, il y a des gens qui sont en Afrique, qui pensent que parce que vous êtes au Québec, bien, vous êtes super riche, vous êtes un pays riche. Ce n'est pas le cas. Les gens, ils ne se rendent pas compte là, que ce n'est pas parce qu'on vit dans une autre culture occidentale qu'on est nécessairement riche. Mais sont-ils en besoin? Est-ce qu'il y a une façon de les honorer financièrement, etc., qui peut être positive? C'est à examiner. Le texte biblique auquel j'ai pensé, c'est celui-ci, dans 2 Corinthiens 8, 11 à 13, où il y a un principe qui est mentionné. Si on veut considérer bénir notre famille d'origine, il faut pouvoir le faire selon nos moyens. On peut avoir de bonnes dispositions, on veut honorer, mais que ça corresponde à nos moyens. Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a, mais non de ce qu'on n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité dans les circonstances présentes. Votre abondance pourvoira à leur indigence. Voilà un principe auquel j'ai pensé. Je ne vais pas m'allonger là-dessus parce que je ne suis vraiment pas compétent dans le domaine, mais peut-être... qu'on pourra en reparler ou vous pourrez en reparler entre vous si c'est une question de souci que vous vivez par rapport à la dot. Est-ce qu'il y a un commentaire là-dessus avant que je continue? Oui. Oh boy! C'est ça. Oui. Merci. Bon commentaire. Donc, principe honorer. C'est une valeur biblique d'honorer. Maintenant, si on réfléchit à l'égalité, on fait ça juste pour la femme, on ne fait pas ça pour l'homme, mais parce qu'il y a d'autres pensées derrière ça aussi. Hein. Il y avait une autre main ici. Donc, on voit qu'il y a des bons aspects dans des traditions, mais il y a des aspects qui peuvent être pervertis et qu'il faut racheter la culture. Il y a toutes sortes de cultures, de traditions sur la planète Terre, puis il faut les examiner à la lumière des valeurs bibliques. Derrière? Dans les deux sens, donc le mari aussi, sa famille reçoit des cadeaux. OK? Oui. Aussi. OK, il y a un partage, il y a la notion de partage qui est là. OK, c'est bon. Anna? En Colombie. Alors, je vais continuer, mais le principe, je pense, ici, c'est qu'on ne doit pas être esclave d'une tradition au point où ça vous empêche d'entrer dans un mariage ou un bon mariage et où vous pourrez y entrer sans vous endetter, où cette tradition-là ne va pas être une occasion de nuire à votre projet d'amoureux ensemble. Il s'agit d'inclure, on marche tous par la foi, quoi. Moi, quand je me suis marié à Jeunesse en Mission, on était tous bénévoles, je n'avais pas de salaire. Hein. Alors, j'avais rien. Même mon père a payé mon billet d'avion pour que j'aille me marier en Suisse. Et puis, mon habit de mariage. Puis le voisin était un vendeur de chaussures. Il m'avait dit, quand tu te marieras, tu viendras me voir, je vais donner des chaussures. C'est le magasin du voisin a fourni mes chaussures. J'avais rien. Mais on marchait par la foi. Puis même chose, il faut honorer, à marcher selon les principes, pas s'endetter. Et les gens qui disent, je ne me marie pas, ça coûte trop cher. Et ça, moi, je n'y crois pas, ça. Tu n'es pas obligé de faire un mariage super dispendieux aussi. Donc, il y a toutes sortes de choses Mais ne nous laissons pas asservir par les coutumes, mais honorons, puis allons-y selon nos moyens. Mais on continue. Genèse 2, qui était soulevé dans, tantôt par quelqu'un tantôt, là derrière. Genèse 2, c'est la répétition d'un côté de Genèse 1, mais avec une sorte de séquence. Genèse 1 ne nous laisse aucunement penser que les deux ont été créés à un timing différent. Mais Genèse 2 dit, Adam a été créé le premier. Pourquoi? Mais quelqu'un a dit, c'est parce qu'il fallait qu'il ait le temps de placer un mot avant que la femme naisse. Une blague, vous pouvez arriver plus, un peu blanc. OK. Et puis, quand ce qui a créé l'homme, quelqu'un a dit, quand il a vu l'homme, il a dit, je peux faire mieux que ça, il a créé la femme. Les féministes vont dire, Dieu a commencé par faire un brouillon, l'homme, avant de créer le chef-d'œuvre, la femme. Puis les hommes vont répondre, pour la création, pour le coup d'essai, l'homme, ça fait vraiment, c'était un coup de maître. Après ça, Dieu était un peu fatigué, il a créé la femme, puis après il était se reposer. Non, voilà. Mais plus sérieusement, alors, pourquoi cet ordre-là différent? Alors, il y a une raison à ça. C'est pas un hasard. Et puis, ce n'est pas un message non plus de supériorité de l'homme par rapport à la femme. Dieu est un Dieu d'ordre et d'harmonie. Et il a créé dans un ordre différent pour établir une harmonie dans la relation entre l'homme et la femme. Et non pas pour hiérarchiser, si on peut dire, les rapports entre l'homme et la femme. Alors, en créant Adam, il n'y avait aucun message comme quoi ça fait de l'homme quelqu'un de supérieur, mais Dieu a créé dès le départ un ordre dans les fonctions et les responsabilités de l'un et de l'autre. Et c'est ce qu'on va regarder maintenant en comparant la création d'Adam et la création d'Ève. Et on va parler de fonctions différentes, de responsabilités différentes. Mais je voulais d'abord et avant tout dire, nous sommes égaux en valeur. Puis là, on va regarder, mais on a des appels différents. Question par rapport à ça? C'est sûr qu'après le péché, il y a eu ce passage qui dit « Les désirs de la femme se porteront vers son mari, mais son mari dominera sur elle. » Il y a une perversion. Mais Dieu veut restaurer l'ordre établi au départ. Mais une petite correction ici par rapport à ça, c'est que Adam a été créé non pas dans le jardin. Il était en dehors du jardin. À partir de la poussière. Genèse 2:8, ça dit ceci, Dieu créa Adam, et puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et ça peut être un détail, mais un auteur, je ne sais pas si vous connaissez John Eldridge, il a écrit le livre « Le secret de l'âme masculine », indomptable, « Le secret de l'âme masculine », il dit ceci, par rapport au fait qu'Adam aurait été créé en dehors du jardin, il dit, voilà une relation avec le masculin. Qu'est-ce que le masculin? On va voir tantôt. Au plus profond de tout homme, il y a le désir ardent de livrer un combat, de vivre une aventure et de conquérir une belle. Alors, mis en terrain sauvage, cet élément d'aventure, l'homme qui veut conquérir, l'homme qui veut explorer, etc., il y a des gens qui n'ont pas aimé le livre de John Eldridge. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Et cette réflexion, pourquoi Adam créé dans un terrain sauvage? Ben, on peut y voir une image du masculin. Une autre chose qui caractérise Adam dans Genèse 2, c'est qu'il reçoit des ordres. Quel ordre est-ce qu'il reçoit? Avant ça, tu ne toucheras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il le dit à Adam. Ève n'est pas encore là. Et oui, ensuite, il se met au travail. Nommer les animaux, cultiver le jardin. Et vous savez que pendant l'éternité, on va travailler. Yes! Le travail n'est pas le résultat du péché. Dieu dit dominer. Et pendant l'éternité, et ça va être long, là, on va dominer dans l'univers, à partir de la terre. Donc, il reçoit des ordres et Dieu le met au travail. Et Dieu dit, tu vas nommer les animaux. Et le sens de nommer ici, dans Genèse 2, verset 19, il y a vraiment un très beau passage ici. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. L'homme crée avec Dieu. Dieu fait un certain nombre de choses, mais ensuite laisse à l'homme de créer, d'inventer, d'initier des choses, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. Alors, pour moi, nommer, par exemple, quand on a un enfant, les parents vont chercher le nom pendant longtemps. Le dernier petit qui est né, il s'appelle Renaud, là, il y a 5 mois, il y a quelques jours, il y a eu 5 mois. Eh bien, les parents, quand ils sont sortis de l'hôpital, il n'y a toujours pas de nom, il n'y a pas trouvé le nom pour leur fils. On a 30 jours au Québec légalement avant de donner un nom à un bébé, en passant. Et puis, si tu ne l'as pas fait après 30 jours, tu reçois une lettre ou quelque chose, en tout cas. Mais, alors, finalement, ils ont pris leur temps pour trouver le nom qu'ils voulaient lui donner. Mais, donc, nommer, c'est une certaine responsabilité. Quand on nomme, c'est, en même temps, on prend une responsabilité sur ce qu'on nomme pour prendre soin. Et le mot « autorité », on va le revoir plus tard, c'est aussi le sens de responsabilité. Voilà donc comment Adam a été créé. Puis ensuite, on a Ève qui vient. Et Ève est née, elle, créée à partir du corps d'Adam, pas de la poussière. Et là, on peut dire, ça crée quoi? Un sentiment, un lien d'appartenance. Et ce n'est pas un os du pied ou un os du cou. Un os du pied dominé par l'homme, os du cou dominer l'homme. Non, une côte, côte à côte, à côté de lui. Et dans ce sens-là, ça communique le sens d'égalité, à côté de. Et puis, il y a le mot aussi, une aide, quelqu'un qui soit son vis-à-vis. Et ça ne veut pas dire la servante, celle qui fait le ménage, ou l'esclave, c'est celle qui collabore avec. Et même Dieu, dans la Bible, il est à plusieurs reprises appelé une aide. On sait que Dieu n'est pas notre esclave. Donc, Dieu qui vient aider l'homme, la femme qui vient travailler avec l'homme. Donc, collaboratrice avec lui. Et elle est créée dans le jardin. Moi, quand je pense à jardin, je pense à féminité. Les fleurs, la beauté de la création, tout ça. Et Adam a préparé ce jardin-là pour accueillir la féminité en Ève. Et ensuite, on peut dire, quand Ève est tentée ensuite par le serpent dit, il est bon ce fruit-là à manger, puis elle dit au serpent, Dieu a dit, Genèse 3:3, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Elle a reçu cette information-là d'Adam, parce qu'elle n'était pas là quand Dieu a dit ceci à Adam. Alors, on soupçonne qu'Adam, une fois qu'Ève a été créée, montré le beau jardin, etc., on a visité tout ça, il dit, oh, en passant cet arbre-là, Dieu a dit, pas touche. Et une autre chose qui caractérise Ève aussi, c'est il la nomme. Chapitre 2, verset 23, l'homme, quand il l'a vu, l'homme s'écria, on peut dire, peut inclure beaucoup de choses en secret. Wow! S'écria, voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Donc, il la nomme. Et le fait qu'il la nomme, c'est encore là pour moi un sens de responsabilité. Il la reconnaît, il l'apprécie, il la bénit en quelque part, il la libère dans son identité, il l'affirme comme femme. Donc, les deux sont créés différemment. Et ils sont très différents l'un de l'autre en termes d'appel. Ils sont créés pour des fonctions différentes. Adam reçoit un mandat. Ève vient pour être une vis-à-vis avec lui, pour l'accompagner. Et avec des caractéristiques différentes aussi. Il est davantage masculin et elle est davantage féminine. Et le point majeur que je veux faire avec vous aujourd'hui par rapport à notre société, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être égaux en valeur, mais différents en fonction. Mais le problème dans notre société, c'est quoi? On essaie de prouver l'égalité de valeur en faisant les mêmes fonctions. Vous me suivez? Moi, je dis, il n'y a pas besoin de prouver l'égalité de valeur. C'est un fait. Mais il y a besoin d'entrer dans notre vocation de différence en termes de fonction. C'est une autre réalité dans laquelle on doit entrer et dans laquelle la société n'entre pas parce qu'elle est très confuse. Et c'est pour ça que on essaie maintenant d'avoir la parité partout. Et je regarde les nouvelles, etc. Je regarde les nouvelles sur la Suisse régulièrement, puisque ma femme vient de la Suisse. Je regarde ça régulièrement, puis que ce soit en Suisse ou ailleurs, on espère que tous les niveaux de responsabilité que les hommes vont prendre, que les femmes, ça va être 50-50. Au même niveau, même responsabilité. Pour prouver l'égalité. Et à mon avis, il y a quelque chose qui ne marche pas. On est dans la confusion par rapport à ça. Et la confusion mène à la singerie. On essaie d'imiter, pour prouver l'égalité, on essaie d'imiter l'homme. Et donc, on demande aux hommes d'être des femmes et aux femmes d'être des hommes. Une citation de John Eldridge, encore dans son livre Indomptable, Le secret de l'âme masculine. Il dit, en réaction à l'homme dominateur, on a demandé à l'homme de ressembler davantage à la femme. La société ne parvient pas à bien définir ce qu'est l'homme. Après avoir consacré les 30 dernières années à redéfinir la masculinité et faire des hommes plus sensibles, plus sûrs, bref, plus féminins, elle reproche maintenant à l'homme de ne plus être viril. Où sont les vrais hommes? Cette question revient souvent et fait l'objet de nombreuses émissions et de livres. Je suis tenté de leur répondre. On leur a demandé d'être des femmes. Voilà un des problèmes qu'on a dans notre société. Une femme a dit ceci. Une des conséquences malheureuses du mouvement féministe est l'absence de respect envers l'unicité et la particularité de la féminité et de la masculinité. On a besoin de redécouvrir, respecter la valeur du masculin et du féminin. Et quand on parle d'émancipation, je pense que ce mot-là, on pourrait l'appliquer là-dedans. L'homme a besoin de s'émanciper dans sa masculinité, découvrir c'est quoi d'être un homme, puis entrer dedans. Puis la femme a besoin de s'émanciper dans sa féminité pour être davantage femme. Alors, quelques petites choses encore, puis on va prendre une petite pause dans quelques instants. Mais une longue citation ici de Paul Tournier, mais ça vaut la peine de le voir. C'est dans un livre qui s'appelle « La mission de la femme ». C'est un livre qui date d'un bon petit bout maintenant. Paul Tournier était un médecin de la personne à Genève, un homme qui avait une vie spirituelle aussi, prenait soin des gens. Et puis, il cite France Quéré, en quelque part, à la fin. On va lire le texte au complet ici. Après 3 siècles où elles ont été reléguées à l'écart, on parle des femmes, elles cherchent surtout maintenant à imiter les hommes, à démontrer qu'elles sont capables d'assumer comme eux n'importe quelle tâche professionnelle. Cette idée que représentent tant de féministes que ce sont les études, une profession et un titre seulement qui peuvent valoriser une femme est tout à fait masculine. Vous suivez ce qu'il veut dire? C'est la femme, pour s'émanciper, elle essaie d'imiter l'homme. Et ce féminisme semble là étrangement influencé par les préjugés masculins, ne voir de victoire féministe que lorsqu'une femme assume une fonction comme un homme, c'est encore confirmer le préjugé de supériorité masculine, puisque c'est prendre l'homme pour modèle. C'est ce qu'exprime France Quéré. On veut que les femmes soient une personne, que la femme soit une personne, on lui demande de faire le singe. On la met à imiter l'homme dont la supériorité est ainsi dévotement saluée. Est-ce que vous voyez la nuance ici? C'est peut-être pas clair pour tout le monde, Anna? C'est-à-dire, si pour la femme, son point de référence, son point de repère pour être égal à l'homme, c'est de vouloir entrer dans les mêmes fonctions que l'homme, pour prouver qu'elle était aussi capable que l'homme, plutôt que d'entrer dans son appel de femme, peu importe ce que c'est, puis on va voir davantage tantôt c'est quoi une femme, alors elle prend l'homme comme point de référence, plutôt que de prendre la femme comme point de référence. Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qui est particulier à la femme? Puis on va développer ça tout à l'heure. Qui fait qu'elle peut regarder ça comme étant, OK, je suis une femme, et je veux me développer comme femme, et peu importe quelle profession ça va vouloir dire à la fin, mais où sa motivation puis son point de repère, ce ne sera pas de, il faut que je fasse la même chose que l'homme pour être égal. Il faut que dans la société, on remplisse les mêmes postes, les mêmes fonctions, sans discrimination. Parce qu'on parlait de discrimination aussi, si on ne veut pas aller dans ce sens-là. Plutôt que de dire, ben, je suis une femme, je suis différente, je suis égale à l'homme, mais je veux entrer dans mon appel de femme. Est-ce que ça explique un peu? Fait qu'on reproche, Paul Tournier, en citant ça, il reproche le fait que le point de repère ou l'instrument de mesure ne devrait pas être l'homme pour la femme, mais la femme pour la femme et l'homme pour l'homme. Il y avait une main. C'est une bonne question, mais je pense qu'elle est un peu trop vite. Mais garde-la pour tantôt. Garde-la pour tantôt. Oui? OK. Peut-être que je développe un peu. Ça, pour moi, c'est quand je dis regarder la femme, je dis regarder la féminité, regarder l'image de Dieu que la femme est, même chose pour l'homme, et se développer en fonction de cette image-là qui est dans la femme pour entrer dans son appel de femme. Ça va peut-être devenir plus clair tout à l'heure, mais ta question, c'est comme... Tu veux dire, on met de côté l'image de Dieu là-dedans, ou c'est ça que tu veux dire, ou qu'il manque une partie de l'image de Dieu? OK. Mais tout en comprenant qu'il y a deux pôles, le masculin et le féminin, et en moi, il y a les deux aspects. Et dans la femme, il y a les deux aspects aussi. Mais que, règle générale, en tant qu'homme, la plupart des hommes, on pourrait dire, supposons, là, on ne peut pas le calculer comme ça, mais 60 % de masculin, 40 % de féminin, ou 70, 30, puis la femme, l'inverse. Donc, c'est tout en développant les deux côtés de notre personnalité, en ne mettant pas de côté notre particularité.